Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kanfoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La reprise du procès d'Al-Faqi Al-Mahdi à la Cour pénale internationale hier mardi, l'événement retient l'attention d'une bonne partie de la communauté internationale, notamment les organisations de défense des droits de l'homme. Aux djihadistes, on reproche sur la destruction des mausolées de Tombouctou. Certains les soupçonnent d'avoir également commis d'autres crimes. Comment se déroule ce procès, qui est une première au niveau de la Cour pénale internationale? Le procès va-t-il tenir toutes ses promesses? Annonce-t-il d'autres procès du genre à la CPI et pourquoi pas un jour ici à Bamako? La demande de certaines organisations d'élargir les charges retenues contre Al-Faqi à d'autres crimes est-elle fondée? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons donc réfléchir au cours de ce débat, un débat auquel prennent part Amadou Boubacar Tekete, je m'excuse, il est le secrétaire général de la MDH, Maître Abdelman Touré, il est avocat au barreau, Abdoulaye Touré, président de l'association des victimes, et nous avons Ephrem Ririza qui est donc journaliste, il est au journal Justice Info d'Ouganda. Nous aurons également en ligne Issa Fakaba Sissoko qui est notre envoyé spécial à la haie. À la présentation, Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditeurs, auditrices, bienvenue. Al-Faqi à la CPI, le procès tiendra-t-il toutes ses promesses? C'est donc le thème de ce débat. Comme premier volet, nous avons retenu le rôle d'Al-Faqi dans les crimes commis au Nord. Dites-nous donc tout d'abord, vous, Abdoulaye Touré, vous qui êtes donc le président de l'association des victimes de Tombouctou. Alors, dites-nous, que savez-vous de ce personnage?
Bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Abdoulaye Touré, je suis le coordinateur régional des associations de victimes de la région de Tombouctou et en même temps, je suis le chargé du plaidoyer au niveau de la coordination nationale des associations de victimes de la crise au Mali. Voilà, donc pour ce procédé qui avait commencé hier pour les charges, nous en tant que structure des victimes, à la base, je vais dire à Tombouctou, on se réjouit assez et on trouve ça très salutaire que quelque part, la CPI puisse faire ses cadeaux à l'ensemble des victimes et pour la communauté internationale, bien sûr que pour le Mali, parce que quelque part, ce qu'on les reproche, c'est quand même pour Tombouctou, en tant que ville universelle, c'est encore pour Tombouctou, patrimoine mondial, et pour Tombouctou, où des victimes ont subi. Voilà, donc nous jugeons ça très important et je crois qu'on se réjouit quand même que ça ne se limite pas seulement à ce niveau.
Amadou Boubacar Tekete, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'AMDH. Le nom Al-Faqi ne vous est pas étranger depuis un certain temps.
Effectivement, Al-Faqi ne n'est pas étranger, mais surtout le nom de guerre d'Abou Tourab. Surtout le nom de guerre d'Abou Tourab. Vous avez demandé à mon ami de Tombouctou qui il était, Abou Tourab. Ben, je suis en mesure de vous dire qu'il est né en 1975 à Gouna, à 100 km à l'ouest de Tombouctou, au Mali. Il est membre du groupe islamique radical Ansar al-Din, un groupe armé du djihadiste lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. En tant que chef de la police islamique à Tombouctou, il était l'un des quatre commandants d'Ansar al-Din, responsable de l'imposition par la force du pouvoir des groupes armés djihadistes dans cette ville. De plus, jusqu'en septembre 2012, il avait sous son contrôle, en tant que chef de la police, l'Al-Saïb, c'est-à-dire la brigade des mœurs, et participait aussi au travail du tribunal islamique de Tombouctou et à l'application des décisions. Donc en janvier 2012, le Mali a fait, je crois qu'on va rentrer dans le détail, mais puisque vous voulez savoir qui il était, en tout cas, voilà qui il était. Donc, on va parler du reste.
Maître Abdelman Touré, vous êtes avocat au barreau. Vous aussi, vous êtes intéressé à ce personnage?
Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Effectivement, comme l'a dit M. Tekete tout à l'heure, ce monsieur Al-Faqi Al-Mahdi n'est pas un inconnu, en tout cas pour les Tomboxiens, qui ont eu à le connaître bien avant ces événements malheureux. Et il a subitement changé juste après l'envahissement de la région ainsi que des autres villes du Nord en se positionnant directement comme étant une des personnalités assez importantes dans ce qu'ils ont appelé à l'époque le centre d'application du convenable et d'interdiction du blâmable. Donc à cet effet, il avait une double casquette. Tantôt, il était chargé de la surveillance des mœurs, mais également, il servait aussi d'aide en ce qui concerne la justice islamique de l'époque. Il ne s'arrêtait pas non plus. Il intervenait également au niveau de l'application des décisions issues de ces juridictions islamiques de l'époque. Donc cela va sans dire qu'il y a eu énormément d'implications de sa part, tant dans les actes de flagellation et dans les actes de torture, de mariage forcé. Et aussi le fait qu'il dirigeait la brigade de mœurs, il y avait également énormément de personnes sous sa responsabilité qui se sont retrouvées dans des situations de violation de droits humains, notamment les violences sexuelles, etc., etc. Donc c'est un monsieur assez trouble, instituteur à la base, tombouxien quand même de souche, qui s'est subitement retourné contre les siens à la faveur des envahisseurs qui voulaient imposer une autre façon de vivre.
Alors nous avons en ligne Ephrem Rigiriza, il est donc journaliste à un quotidien, un journal en tout cas, qui s'appelle Justice Info d'Ouganda. Alors nous savons qu'il s'intéresse beaucoup là-bas à la justice transitionnelle. Alors monsieur Ephrem Rigiriza, dites-nous, cette affaire Alpha Key, est-ce que ça dit quelque chose là-bas dans les rédactions de votre pays? Ephrem?
Oui, je vous entends. Mais peut-être avant que je vous dise si ça retient l'attention des médias ici en Ouganda, il faudrait peut-être corriger, puisque ce qui vient de s'achever, en tout cas la procédure qui s'est terminée hier soir devant la Cour pénale internationale, n'est pas en procès.
On sait que c'est une
C'est une audience de confirmation des charges.
Mais ça entre dans le cadre du procès.
Dans les juges. Mm-hmm. Oui. Non, ce n'est pas dans le cadre du procès, puisque la chambre préliminaire s'est retirée. Elle va maintenant examiner les arguments qui ont été présentés par le procureur et ceux qui ont été présentés par la défense, pour ensuite décider dans une soixantaine de jours s'il y aura procès ou pas. Donc c'est lorsque ce délai de 60 jours aura expiré, la Chambre dira, nous envoyons Al-Mahdi en procès, ou alors les éléments du procureur ne sont pas suffisamment solides pour justifier un procès, et dans ce cas-là, dans cette hypothèse-là, M. Al-Mahdi pourra être relâché. En tout cas, quelle que soit la décision qui sera rendue par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, elle est susceptible d'appel par l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire par le procureur ou par la défense. Donc cette procédure préliminaire, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas non plus terminée. Même au bout des deux prochains mois, elle ne sera pas encore terminée puisqu'il y a possibilité d'appel.
Alors y aura-t-il le procès ou pas? On ne sait pas pour l'instant.
Cette affaire intéresse les médias locaux ici en Ouganda. Je dois le dire, pas tellement, puisque d'abord, ici, nous nous trouvons dans un univers, dans un monde entièrement anglophone, et puis nous sommes en Afrique de l'Est, où les médias s'intéressent en tout cas très peu à ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Bon, il y a quand même quelques médias qui consacrent une demi-page ou quelques lignes à cette affaire, parce que c'est une affaire importante à trois titres. D'abord, c'est le premier djihadiste présumé qui comparaît devant l'international. Deuxièmement, c'est la première fois dans l'histoire.
Alors, nous avons
international que la destruction de mausolées, d'édifices religieux, de monuments historiques est considérée, qualifiée de crime contre l'humanité. Et puis, c'est bien sûr aussi le premier dossier de la Cour pénale internationale dans le cadre de son enquête sur la situation au Mali en 2012 et 2013. Voilà, c'est nous au niveau de Justice Info, qui est un magazine qui appartient à la Fondation Hirondelle, comme Studio Tamani. Nous, ça nous intéresse parce que pour les raisons que je viens d'énumérer.
Alors, merci pour quand même les précisions que vous avez apportées. Mais à présent, cette petite question, vous, personnellement, pensez-vous qu'il y aura procès après cette phase préliminaire?
Je n'ai pas suivi l'audience. Personnellement, j'ai pu, à travers les médias, suivre les arguments des uns et des autres, les arguments du procureur et les arguments de la défense. Donc, je ne veux pas m'ingérer dans le processus judiciaire. Je préfère attendre. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que même cette phase de bien de confirmation des charges, on voit un message très fort à ceux qui pourraient être tentés de commettre les crimes du genre de ceux qui sont aujourd'hui reprochés à votre compatriote. On pense notamment à l'État islamique qui est en train de se livrer à des crimes de ce genre dans les territoires sous son contrôle. Et puis, c'est aussi une façon de dire aux Maliens, attention, la procureure de la CPI n'a pas encore bouclé ses enquêtes sur le Mali. Al-Fayti ne sera certainement pas le seul, il se pourrait qu'il y ait d'autres dossiers. Voilà, le message est clair, mais je ne veux pas préjuger de ce que sera la décision de la chambre préliminaire de la CPI.
Vous gardez donc la ligne, on vous retrouvera dans quelques minutes, le temps de retourner dans ce studio pour poser la question suivante à vous, M. Abdoulaye Touré, qui est donc le président, vous êtes le président de l'association des victimes de Tombouctou. Alors, on l'a compris, une audience de confirmation des charges, c'est quand même différent d'un procès, mais est-ce que vous pensez que les choses vont dans la bonne direction au niveau de la CPI?
Nous l'espérons beaucoup parce que, quelque part, comme l'ont dit les grands frères, ce qui s'est passé à Tombouctou, ce n'est pas de la fiction. Donc je crois qu'il y a, assez d'éléments. Il y a assez d'éléments qui peuvent aller contre M. Tourab. Et de ce fait, nous sommes très, très, très confiants qu'il y aura quand même une suite, je veux dire, une procédure, comme l'a dit tout de suite l'autre, il y aura une procédure. Et on se réjouit quand même parce que, quelque part, ça a été, je dirais, on a coupé un peu les ailes sous les pieds de la CVJR, qui devrait pouvoir enclencher des procédures de reconnaissance de ces actes culturels, mais aussi de ces violences commises par l'État envers l'occupation des djihadistes. Et pour dire franchement que nous, on est très sûrs, très confiants, parce que les éléments que nous allons peut-être aussi aider les enquêteurs dans le futur, peut-être on va saisir aussi la Cour, si possible, avec nos structures, pour essayer de monter des dossiers qui seront, avec nos partenaires des droits humains, valables pour confirmer tout ce qui s'est dit. Donc on est dans une procédure qui nous met vraiment un peu du boum au cœur pour qu'on se mette tous avec la CPI pour que ces procès puissent aller de loin.
Amadou Bouakar Tekete, est-ce que vous êtes confiant concernant ce qui pourra arriver au niveau de la CPI au sujet de ce monsieur Al-Fayti?
Bon, moi je suis plus que conscient. Mais plus que confiant, tout simplement parce que déjà, nous, au niveau de la génération de la société et des défenseurs des droits humains, nous pensons que les charges ne sont pas tout à fait suffisantes par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que si vous tenez compte de l'article 8, alinéa 2 du statut de la Cour pénale internationale, donc, déjà, il est dans le collimateur. Parce qu'il s'agit de quoi? C'est la destruction des bâtiments consacrés à la religion, des monuments historiques qui peuvent être constitués comme crimes de guerre. Donc c'est très clair que l'article 8, alinéa 2 de la Cour pénale internationale est d'accord sur ça. Mais ce qui est réel, c'est que ça a été clairement démontré qu'il a eu à démolir 9 mausolées et une mosquée. Ça, au moins, c'est clair. Les enquêteurs, ils l'ont trouvé, ils l'ont prouvé. Mais nous, nous voulons aller plus qu'à ce niveau-là. Parce que nous savons que ce monsieur qui a été le commissaire de la police islamique, qui a ordonné la lapidation des femmes, qui a ordonné la violation des femmes, qui a fait des mariages forcés, nous tenons justement à ce que ça rentre dans le cadre de ce pays. Et c'est pourquoi nous sommes partis sur place. Et nous pensons que ça va marcher, puisqu'il est permis au procureur de la CPI d'élargir ses preuves à partir de avant le procès. Comme il l'a dit, les 60 jours, ça c'est pour vérifier ça. Mais pendant ce temps, il a la possibilité de donner d'autres arguments, d'amener d'autres argumentations pour encore peser plus lourd que ce que nous pensons. Donc, vraiment, moi, je suis très confiant et je crois que le Mali peut s'estimer heureux pour une fois, qu'il y ait la correction de l'impunité.
Maître Abdourahmane Touré.
Oui, enfin, moi, j'apporte un additif à ce que M. Tekete vient d'ajouter. Est-ce qu'on est confiant par rapport à la confirmation des charges? Tout semble réuni pour le faire. D'abord, cette situation, depuis que le ministre malien a adressé la correspondance au bureau du procureur, il a dans un premier temps d'abord incriminé des faits. Donc il n'y avait pas une personne qui était nominativement poursuivie. Donc c'est des faits de violation des droits de l'homme, des droits humanitaires, de viol, non seulement des violations des droits humains, mais également des violations relatives simplement aussi à la protection des biens et édifices culturels. Donc c'est des faits qui ont été incriminés. Et l'expertise en matière d'enquête de la communauté internationale via la CPI est parvenue à apporter dans un premier temps des éléments suffisants comme quoi M. Al-Tourabi serait impliqué dans la destruction des mausolées et des sites historiques. À ce niveau, il y a 3 points sur lesquels on va le chercher. D'abord, on le cherchera sur le premier point de la commission. Après, on va vérifier s'il n'a pas pu commettre, est-ce qu'il a facilité. S'il n'y a pas la facilitation, est-ce qu'il a participé. Donc, avec tous les éléments de fait qu'il y a, les vidéos également qu'on a vues, parce qu'à l'époque, il se bombait un peu le torse en décrivant la situation comme étant vraiment un événement extraordinaire. Donc, on a des éléments assez palpables à ce niveau qui serait difficile de réfuter d'un revers de main, sauf à nous dire que ce n'était pas vraiment lui. Donc, la question de la confirmation, pour moi, ce n'est qu'une question de temps, comme c'est la procédure qui l'exige.
Autrement dit, vous ne voyez pas d'échappatoire pour lui.
Bien au contraire, je vois beaucoup plus une possibilité d'aggravation parce que les faits incriminés, en grande partie, ce qui concerne la violation des droits concernant les personnes physiques, on n'en a pas parlé encore. On l'a rappelé tout à l'heure, il était chef de la brigade des mœurs Al-Shabaab et qui faisait des flagellations et qui faisait également des mariages forcés, des infractions et des abus sur le plan sexuel. Donc toutes ces charges-là pourront intervenir dans le cadre de cette procédure, comme il l'a dit tout à l'heure également. Il y a la possibilité pour le procureur, même après l'audience de confirmation, d'ajouter des éléments additifs, mais en le soumettant simplement à une procédure particulière de confirmation. Donc les choses ne peuvent que s'aggraver pour M. Al-Tourabi dans cette procédure.
Studio Tamani, nous allons observer une première courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
L'affaire Al-Faki, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Nous en parlons avec 5 personnes. Amadou Boubacar Tekete, qui est le secrétaire général de l'AMDH, Maître Abdourahmane Touré, qui est avocat au barreau. Abdoulaye Touré, vous êtes quand même à la tête de l'association des victimes de Tombouctou, c'est bien cela?
Oui, c'est bien ça.
Vous dirigez la coordination. C'est cela. Nous avons en ligne Ephrem Rougiriza, qui est journaliste. Il est au magazine Justice Info d'Ouganda. Et Issa Fakaba Sissoko est à la haie. Il est notre envoyé spécial. Alors, nous l'avons vu, il y a eu cette audience, donc audience de confirmation de charges. Elle est terminée. On va attendre pour savoir s'il y aura procès ou pas. Alors, je rappelle que nous avons sur place notre envoyé spécial, Issa Fakaba Soko. Bonsoir, Issa Fakaba.
Bonsoir Fomba, bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani.
Alors, vous pouvez un peu nous faire le point de la situation. Comment est-ce que cette audience s'est déroulée là-bas à La Haye?
Merci Fomba, c'est donc hier vers 9h30 que cette audience de confirmation des charges contre Ahmad Al-Fadi Al-Mahdi s'est ouverte. Alors donc, les débats ont commencé par une note introductive du président, du juge président de la cour. Et après ce passage, la parole a été donnée à Madame le procureur pour la présentation de ses éléments à charge en fonction, selon elle, des témoignages et des photos et recherches qui ont été effectuées sur place à Tombouctou. Et donc, cette présentation des éléments a duré pendant près de cinq heures de temps, et ponctuée par des séances à huis clos, mais aussi par plusieurs interventions des collaborateurs de Madame le procureur. Elle, après son intervention, ses collaborateurs ont aussi pris la parole et ont détaillé d'autres éléments à charge contre M. Al-Fadi Al-Mahdi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le procès, selon l'audience, je m'excuse, qui était prévue sur 2 jours, a finalement pris fin hier soir. En tout cas, selon le programme initial qui nous avait été remis, l'audience devrait prendre fin aujourd'hui. Mais hier dans la soirée, les choses se sont plutôt précipitées, car après le passage des collaborateurs de Madame le procureur de la République, de Madame le procureur de la CPI, il y a les avocats de Al-Fadi qui ont pris la parole pendant 30 minutes pour donner leurs éléments de réponse. Et si vous avez écouté le journal d'aujourd'hui, il y a son avocat qui disait qu'il n'était pas question de destruction des mausolées, il s'agissait plutôt de détruire les couvertures. Alors donc, toute la journée d'hier, Al-Fadi lui-même a pris la parole une seule fois, et lorsque le président de la cour lui a posé la question s'il comprend les éléments qui venaient d'être expliqués par Madame le procureur. À part ce passage, ce sont ses avocats qui ont pris la parole. Donc, l'audience a pris fin hier, à rendez-vous dans 60 jours pour que la cour se prononce si le dossier doit être envoyé au fond. Mais d'ici là, Madame le procureur pense détenir suffisamment de preuves contre Al-Fadi pour qu'il y ait un procès.
Merci beaucoup, Issa Fakaba Soko, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à La Haye. Alors, Issa Fakaba, vous l'avez dit, on a entendu effectivement ici l'un des avocats d'Al-Fadi minimiser la portée de ce que ce dernier aurait commis comme crime. Il dit notamment, vous l'avez rappelé, que les tombeaux en tant que tels n'ont pas été attaqués. Nous allons donc écouter cet avocat. Il s'appelle Jean-Louis Gillissen. Il est donc, je rappelle, l'un des avocats d'Abou Touraab.
Parce qu'il ne s'agit pas d'attaquer des mosquées. À aucun moment, il ne s'est agi d'attaquer des mosquées ou des minarets. Jamais. Il ne s'agit même pas d'attaquer des tombeaux. Il s'agit, que les choses soient claires, factuellement, d'attaquer des couvertures. Il s'agit de mettre en œuvre des moyens qui visent à libérer les tombeaux d'éléments qui ont été construits sur ceux-ci. Et cette différence apparaît d'importance parce que ce n'est donc pas les tombeaux eux-mêmes qui seront attaqués. Matériellement, les tombeaux seront même, M. Al-Fadi Al-Mahdi est très clair là-dessus, protégés. Il n'est pas question qu'on touche aux tombeaux ou à ce qu'ils contiennent. Et vous avez donc là toute la difficulté de ce cas. Vous avez entendu dans les éléments de preuve produits par M. le procureur les discours tenus par M. Al-Fadi Al-Mahdi. Il s'agit de deux visions du monde qui se heurtent et qui s'opposent. Vous avez effectivement une conception de la religion. Et la difficulté qui a été soulignée tout à l'heure par une de nos contradicteurs, de la définition de la religion. Et votre chambre va être appelée à rendre une décision où je ne pense pas qu'elle définira la religion comme une pratique quelconque.
Ces propos sont donc signés Maître Jean-Louis Gillessin, qui est donc l'un des avocats d'Abou Touraba. Dites-nous, Abdoulaye Touré, vous êtes donc le patron de la coordination de l'association des victimes de Tombouctou. Ces propos de Maître Louis Gillessin, qu'est-ce que ça vous dit?
C'est un peu amer. Je suis un peu choqué. C'est un avocat, sûrement les avocats ils ont leur façon d'interpréter les choses. Mais parler de couverture ou même parler d'éléments bâtis pour des mausolées tellement sacrées pour un Tombouctien, les matins quand ils ont commencé à détruire ces mausolées, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé à Tombouctou ce jour-là. Et prendre ces mausolées comme des couvertures, je ne sais pas, encore d'éléments bâtis, je ne sais pas. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est l'avocat qui dit. Et nous, à Tombouctou, pour nous, ils ont franchi un seuil infranchissable. Et on savait que cette histoire ne pouvait que finir par un jour retrouver la vérité et être puni par les faits qu'on a accomplis. Et les Tombouctiens vont tous se réjouir, le Mali entier va se réjouir que cette affaire ne pourra pas finir en queue de poisson. Que les avocats trouvent les mots, mais j'espère qu'ils vont trouver des mots quand même plus ou moins tolérants, parce que appeler les mausolées pour les Tombouctiens de couverture, ça c'est choquant.
Alors, nous avons en ligne Ephrem Rigiriza, qui est donc du journal Justice Info d'Ouganda. Alors, dites-nous, vous avez certainement entendu ce que disait l'un des avocats de Al-Faki. C'était donc à la cour lors de l'audience. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ces propos?
Pas de réaction comme telle, mais des interrogations. Et qu'est-ce qu'il appelle les couvertures? Bon, des couvertures qui avaient été placées ou construites sur des mausolées ou sur des tombes, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et puis, si vraiment il s'agissait de couvertures, qui a mis ces couvertures? S'agit-il de tombouctiens musulmans croyants qui les ont mis et qui y ont cru des années et des années? Dans tous les cas, s'il s'agit de cela, c'est bien quelque chose de sacré pour eux. Donc, ils faisaient partie intégrante de leur identité religieuse et culturelle. Donc là, je ne comprends pas bien ce que l'avocat a voulu dire par là, couverture. Donc, il dit qu'il ne s'agissait pas de détruire les mausolées, il ne s'agissait pas de détruire les tombeaux, mais de les débarrasser de ce qui avait été, si j'ai bien compris, construit tout autour ou au-dessus. Bon, en tout cas, ces couvertures-là, si elles ont pu rester là-dessus pendant tant d'années, et avec le respect que leur vouait une population tout entière, bon, je ne vois pas pourquoi il faudrait les minimiser. Et on peut aussi se poser la question de savoir si M. Al-Faki reconnaît avoir enlevé ou détruit ses couvertures, en quelle qualité est-ce qu'il le faisait? Qu'est-ce qu'il avait mandaté pour cela? Voilà, mais ce sont des questions que je me pose, n'ayant pas suivi, n'ayant pas assisté directement à l'audience. Ce sont des questions que je ne peux pas m'empêcher de me poser.
Amadou Boubacar Tekete, vous qui êtes donc le secrétaire général de l'AMDH, ces propos, comment vous les qualifiez? C'est un avocat qui a parlé.
Bon, j'ai beaucoup de respect pour les avocats que j'aime bien. Mais le monsieur qui vient d'intervenir, il n'a parlé que de ce qu'il pense et qui est loin de la réalité. Parce que d'abord, je crois qu'il ne connaît même pas le Mali. Sinon, il n'aurait pas parlé de couverture au niveau des tombeaux. Ensuite, il a parlé de est-ce qu'il s'agit de religion. L'islam est rentré au Mali depuis le 7e siècle, donc un siècle après le prophète. Et donc ça, je crois que lui, il ne connaît pas le Mali. C'est vrai qu'il est avocat et qu'il doit défendre son client. Je le concède. Mais ce qui est réel, c'est que son client a bel et bien détruit des mausolées. A bel et bien détruit la mosquée Sidi Yaya. Ça, c'est quand même clair, c'est touché de tout le monde. Je ne le défends pas je ne l'interdis pas de défendre son client, mais qu'il accepte quand même que sur le plan cultuel et sur le plan culturel, il y a un mal qui a été fait. Non seulement sur le plan culturel, mais sur le plan cultuel. Et là, on ne peut pas le pardonner. Personne à Tombouctou ne le pardonnera. Aucun musulman au Mali ne le pardonnera. Ça, il faut que ce soit très clair. Mais je n'interdis pas à l'avocat de défendre comme il veut, parce qu'il est avocat. Il a été pris pour ça. C'est son droit. Et comme je suis défenseur de droit, je l'accepte qu'il fasse sa défense. Mais la réalité est que nous condamnons et nous continuerons à condamner. Et on va aggraver l'accusation. Parce que réellement, il faut l'aggraver. Et il faut le donner plus fort que ça, parce que c'est plus fort que ce que l'on pense. Penser qu'aujourd'hui, on peut faire au Mali, détruire des tombeaux, empêcher aux gens d'aller à la mosquée, couper les mains des gens, et violer les femmes, donner faire des mariages forcés, croire que ça va passer et que les Maliens vont rester comme ça. Aucun Malien, aucun musulman malien ne l'accepterait et tout le monde va le condamner parce que nous sommes musulmans depuis le 7e siècle. Ça, il faut que ce soit très clair.
Maître Abdramane Touré, je rappelle que vous êtes avocat au barreau. Alors, Jean-Louis Gilissin, l'un des avocats d'Abou Touraba, donc au palais, vous l'avez écouté, la mission d'un avocat. Tout le monde le sait, c'est de défendre son client. Mais ces propos que nous venons d'entendre, ne sont-ils pas quelque part un peu choquants?
C'est une question de perception. Moi, je pense que la CPI, comme toutes les justices humaines, organise ce qu'on appelle les droits de la défense. Le fait, aussi grave soit-il, l'auteur mérite quand même une défense. C'est ce qu'on appelle les droits de la défense. Et dans la mise en œuvre de ces droits de la défense, il y a des conseils qui adoptent avec leurs clients ce qu'on appelle une stratégie de défense. En l'espèce, ils ont opté pour une stratégie, celle d'abord de plaider non coupable dans un premier temps, ne pas reconnaître le fait. Et dans le développement de cette stratégie, il fallait simplement jouer sur les failles et les petites notions qui peuvent prêter à confusion dans l'optique simplement de semer le doute dans la tête des uns et des autres et de pouvoir trouver des moyens d'élargissement pour le client. En ce qui concerne cette position, c'est une position, mais elle ne résiste pas à l'analyse, dans la mesure où il y a une tentative de différenciation entre le mausolée et la tombe. Voyez-vous, le mausolée, en réalité, ce n'est qu'un monument funèbre, funéraire plutôt, d'une grande dimension et dans laquelle se trouve, n'est-ce pas, le corps du défunt. Contrairement à d'autres formes telles que les cénotapes, dans le cas où on ne trouve pas la personne, on fait un monument à la mémoire de la personne. Donc dans ce cadre-là, la tombe et le mausolée ne font que un. Voyez-vous, donc le mausolée est une tombe, mais simplement elle est bâtie. Il est bâti plutôt. Donc, essayer de faire la différence entre la tombe et le mausolée, c'est une tentative qui peut être subtile, mais en réalité, elle n'a aucun moyen de prospérer. Dans la mesure où la tombe peut être creusée soit dans la roche, soit dans la terre, comme elle peut être aussi bâtie. Et ce qui est reproché à M. Al-Mahdi dans ce cas, c'est les attaques contre les bâtiments consacrés à la religion. Voyez-vous, les mausolées qui sont en question sont des mausolées qui abritent des saints. Il y a des personnes également qui respectent énormément ces saints-là. Il y a des personnes également qui se reconnaissent en l'action de ces saints et veulent adopter le même chemin que ces saints-là ont adopté dans le sens de la religion. Donc ces bâtiments sont classés et souvent il y en a qui sont même logés dans des mosquées. Voyez-vous, ce n'est pas des choses banales qu'on trouve un peu partout. Donc il s'agit ici en l'espèce en réalité de bâtiments consacrés à la religion. Il veut ramener la question maintenant sur des subtilités en essayant de faire la différence entre le mausolée et la tombe. Mais en réalité, ce sont des choses qui ne tiendront pas. L'autre aspect qui peut être un peu dérangeant, c'est surtout la posture de ce monsieur-là. D'habitude, les djihadistes, c'est des personnes qui sont censées être dans des convictions tellement profondes qu'elles ne vont jamais nier leur idéal. Moi, je pense que si ce monsieur est un djihadiste comme il l'entend, il n'a vraiment pas à refuser d'assumer ce qu'il a eu à poser. Des personnes qui sont capables de donner leur vie, de se faire exploser dans la masse, hein, de laisser passer ce que l'homme a de plus capital, n'est-ce pas? Ça, c'est des personnes qui se reconnaissent très souvent dans ce genre d'action. Mais ça démontre simplement que c'est des personnes qui ont une conviction assez volatile, qui surfent au gré des événements et des alliances et se positionnent. Et sinon, venir jusque-là et essayer de nier cela, moi, je pense que ce n'est pas une attitude courageuse, ce n'est pas une attitude digne quand même d'une personne qui se réclamait d'un islam où la voie de Dieu est le seul chemin qu'il voulait tracer. Contrairement à l'autre, je ne l'apprécie pas, qui est à Gao, celui qui était de la police islamique, qui coupait les mains, il a été le seul parmi tous ceux qui ont été arrêtés à reconnaître et à assumer pratiquement ce qu'il a fait dans le sens de ses convictions religieuses. Donc Al-Mahdi, ça veut dire simplement que non seulement ce n'est pas un monsieur, un musulman, ce qui est d'ailleurs une réalité, ce n'est pas non plus un djihadiste non plus. Donc c'est un monsieur qui a un esprit, une idéologie assez volatile, qui peut changer de camp au gré des situations.
Avant d'aborder donc, M. Tegeté qui veut réagir.
Oui, je vais profiter de ce que vient de dire Maître pour lui dire que nous ne reconnaissons pas les djihadistes. C'est-à-dire, dans l'islam, il ne faut pas parler de djihadistes. C'est des terroristes. Il ne faut pas chercher un autre nom. Un point, un trait. C'est des terroristes. Ils sont venus pour la terreur. Donc, ils ne sont pas djihadistes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'extrémisme n'est pas religieux. Donc, djihadistes, là, il faut laisser tomber. Parce que djihadistes, c'est une manière de vraiment leur donner une valeur. Ils n'ont pas de valeur. C'est des terroristes. Purement et simplement. Là, je tenais à ça parce que vraiment, il faut ça.
Avant donc, vous aussi, vous voulez réagir
Non, je rajoute parce qu'effectivement, c'est ce matin qu'ils ont commencé à casser les mausolées. Vous ne pouvez pas imaginer la terreur qu'ils ont semée dans la ville. La ville a été terrifiée, dans le vrai sens. C'est la terreur, hein, c'est vraiment du terrorisme. Point barre.
Alors, avant d'aborder le dernier volet de ce débat, cette question à vous personnellement, Abdoulaye Touré, de l'Association des victimes de Tombouctou. Certaines organisations de défense des droits de l'homme voudraient que les charges retenues contre Alpha Ki soient élargies à d'autres crimes. Est-ce que vous partagez ces soucis?
Je crois qu'on est partenaire avec les organisations de défense des droits humains, et la MDH ici, la FDH et tous les autres. Et au fait... Nous avons déjà déposé 33 plaintes le 6 mars 2015. Et parmi ces plaintes déposées ici à Bamako, parce que les avocats se sont rendus sur le terrain, et pour les victimes enquêtées, il y a des éléments qui vont dans ces procès. Absolument. Il y a des éléments qui vont dans ces procès. Donc, vous dire que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. On tient à ce que ces procès aboutissent parce qu'il va de l'honneur et de la dignité de nos victimes qui souffrent de ce qui s'est passé à Tombouctou.
Alors, je rappelle que nous avons en ligne Ephrem Rigiririza, qui est donc du magazine Justice Info, site web Justice Info, spécialisé donc sur la justice transitionnelle. Alors, dites-nous, monsieur, ce procès, quand même, c'est une première au niveau de la CPI. Est-ce qu'il pourra annoncer d'autres procès du genre?
Ah oui, je l'ai dit au début. En tout cas, c'est un signe fort qui est envoyé notamment à l'État islamique qui est en train de commettre des crimes du genre de ceux qui sont reprochés aujourd'hui à M. Al-Faki. Donc, la procureure Fatou Bensouda l'a clairement expliqué hier dans son intervention. S'attaquer à ces édifices religieux ou à ces monuments historiques qui constituent l'identité culturelle, il y a tout à l'heure un intervenant qui a souligné même l'identité culturelle de tout un peuple, cela constitue un crime de guerre. Ça peut même constituer un crime contre l'humanité. Donc, on espère que, en tout cas, c'est une première et qui devrait, je crois, servir de leçon à ceux qui, à travers le monde, se livrent à des actes pareils. Et surtout que, comme l'a encore souligné Fatou Bensouda, après avoir perpétré des crimes de ce genre, donc après avoir détruit des mausolées, des édifices religieux ou des monuments historiques dont tout un peuple se sent en quelque sorte fier, alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qui reste après? C'est de s'attaquer directement à cette population par des crimes qui la frappent dans sa chair. Et c'est ce que les militants des droits de l'homme au Mali sont en train de réclamer de façon légitime, à mon avis. J'ai entendu parler de crimes sexuels, de violences sexuelles. J'ai entendu parler de flagellation. Et la destruction de ces mausolées, elle a servi de lit à tout ça. Qu'est-ce qui restait? Qu'est-ce qui restait après avoir détruit quelqu'un dans son identité, dans sa fierté? Qu'est-ce qui restait maintenant? C'était de s'attaquer à ces personnes-là dans leur chair maintenant.
Amadou Bouakar Tekete de l'AMDH.
Merci. Nous avons effectivement déposé une plainte au nom de 33 victimes, comme l'a dit M. Touré. Hein,
Touré,
comme Touré, Touré oui. Et devant la justice malienne en mars 2015, visant Alpha Ki et 14 autres personnes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, incluant des crimes sexuels. Et là, nous tenons à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, mon président est à la haie avec notre collaborateur, notre partenaire de l'UDAF, pour qu'on puisse effectivement tenir compte de ça, pour que ça puisse effectivement être mis en compte par rapport à l'ACPI. Sinon, au niveau du Mali déjà, la plainte est déposée et les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent, on est même partie civile accompagnant les 33 victimes.
Alors, Maître Touré, Maître Abdramane Touré, avocat au barreau, est-ce qu'il y aura donc d'autres procès, non seulement à la haie, mais est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un procès du genre ici à Bamako?
Bon, à Bamako, c'est un souhait, mais pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, je confirme parfaitement que les actes posés par ce monsieur et ses semblables procèdent ce qu'on appelle le nettoyage purement culturel. Et de l'autre côté aussi, dire que ça a une dimension aussi symbolique dans la perspective de la lutte contre l'impunité. Et que dorénavant, chacun sait que si on s'attaque à des monuments, à des édifices dédiés à la religion, à l'enseignement, en tout cas des choses qui font et participent de notre identité culturelle, on ne peut pas rester impuni. Maintenant, la possibilité d'un procès de ce genre ici au Mali, c'est souhaitable, mais dans les faits actuels, ça va être très très difficile. Ça a été dit tout à l'heure, les organisations de défense des droits de l'homme, WILDAF et tout le reste, ont également dénoncé beaucoup de choses qui ont eu des débuts, n'est-ce pas? Il y a eu des débuts de procédure dans certains camps, mais à la fin, et très souvent, pour des raisons quand même de mesures de restauration de confiance entre les entités non étatiques et l'État du Mali, certaines personnes quand même fortement soupçonnées se sont trouvées élargies. Donc au nom de cette quête de paix, au nom de la fragilité même de ce dialogue quand même qui est assez embryonnaire, il va sans dire qu'il serait très difficile d'être en mesure d'organiser ce genre de procès. Si vous regardez bien même la lettre que le ministre de la Justice de l'époque avait envoyée au bureau du procureur, il avait dit que le Mali n'était pas en mesure de poursuivre ou de juger ces personnes-là. Donc c'était des impossibilités de fait, mais pas de droit. Dans la mesure où le droit national également a des dispositions qui peuvent s'appliquer, notamment la destruction de tombeaux, destruction d'édifices, mais compte tenu du factuel, l'impossibilité de rechercher ces gens, l'impossibilité d'aller rassembler les preuves, et compte tenu de tout cela, maintenant, on a décidé d'aller vers la CPI. Jusqu'à présent, le pays reste encore fragile sur ce plan, et cette impossibilité de fait, pour moi, est encore prégnante, et il serait encore très difficile et prématuré pour nous de dire qu'on peut organiser des procès de ce genre encore ici. Ce n'est qu'une opinion, mais bon.
Alors, nous donnons la parole à vous, à Amadou Bouakar Tekete, juste pour une trentaine de secondes.
Ok, merci. Je veux tout simplement dire à Maître que nous pensons très sincèrement qu'avec une volonté politique, tout est possible. Parce que lorsqu'il a parlé de ceux qui ont été élargis, ils ont été élargis au nom de quoi? Au nom de la réconciliation? Au nom de la paix? Mais ce n'est pas en encourageant l'impunité qu'on aura une réconciliation nationale. Donc moi, je pense très sincèrement, Maître Touré, qu'il faut une volonté politique réelle pour combattre l'impunité. Et ça, je crois qu'il ne faut pas donner un justificatif pour dire qu'on peut, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, arrêter l'impunité.
Je n'ai pas justifié, j'ai simplement expliqué.
Alors, malheureusement, vous voulez parler, mais juste deux mots
pour dire qu'effectivement, dans ce processus de justice transitionnelle où il faut parler de l'impunité, on ne peut pas pouvoir quand même s'affaiblir et dire que voilà, on libère des gens. Ça crée des frustrations, des indignations et on ne pourra pas réconcilier.
Voilà, c'est sûr, c'est
donc, on souhaite que les autorités prennent en charge.
Voilà, c'est sur ce propos qui s'achève ces débats auxquels on a pris par Amadou Boubacar, qui était secrétaire général de la MDH, Maître Abdramane Touré, avocat au barreau, Abdoulaye Touré, président de l'association des victimes de Tombouctou, et vraiment Régiriza, journaliste au magazine Info d'Ouganda, Justice Info, Issa Fakaba a pris part à l'émission. On se retrouve donc demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Maoudi.
Chenne.